France Inter, il est bientôt 16h15, heure 4. Tout de suite, les femmes, toute une histoire avec Stéphanie Duncan.
Merci Dominique Delaroa, on vous retrouve à 16h.
Viva la femme!
Viva! Tu es un femme.
Moi, je ne suis pas un femme. Je suis une femme.
Femme!
Le mari est le chef de la famille.
La barbe.
Femme.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
40 ans après le MLF.
Time is now for women's rights.
Il suffit d'écouter les femmes.
Les femmes, toute une histoire. Stéphanie Duncan.
Bonjour, bienvenue chers auditeurs dans Les Femmes, toute une histoire jusqu'à 16h. Une émission réalisée par Laurent Thomas avec Valérie Bourg. Thierry Dupin choisit les chansons, à la technique Clément Vuillet. Passionnantes les mémoires de Beate et Serge Klarsfeld qui viennent de paraître. Les souvenirs de ce couple mythique, elle allemande, lui français juif, dont le père est mort à Auschwitz. Engagés ensemble depuis 1967 dans la recherche des criminels nazis et contre l'oubli de la Shoah. J'ai eu l'occasion d'interviewer Beate Klarsfeld dans cette émission. Elle m'avait raconté comment, jeune mariée, ils se partageaient les tâches. Serge assurant le quotidien avec son revenu d'avocat et s'occupant des enfants pendant que Beate militait, accumulait les preuves et manifestait. Par la suite, Serge partira lui aussi en première ligne. Son premier acte d'éclat, Beate, l'accomplit le 7 novembre 1968. En plein Bundestag, le Parlement allemand, Beate réussit à s'approcher de Kurt Georg Kiesinger, chancelier de l'Allemagne fédérale et ancien nazi, et elle lui assène une gifle historique en criant de toutes ses forces « Nazi, nazi, démission ». Beate est immédiatement arrêtée, bien sûr. Dans leur mémoire, elle raconte la visite à ce moment-là du vétéran du Parlement, Ernst Lämmer, ancien nazi lui-même, qui avait voté les pleins pouvoirs à Hitler en 1933 et qui vient faire la morale à la jeune écervelée. Sans succès. En sortant, il déclare à des journalistes « Cette femme, qui serait jolie si elle n'était si palote, est une femme sexuellement insatisfaite ». Beate Klarsfeld est condamnée à un an de prison, mais l'année suivante, elle sera amnistiée par le nouveau chancelier, Willy Brandt, ancien résistant. Les mémoires de Beate et Serge Klarsfeld sont publiées chez Fayard Flammarion. Laurence Ligier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi une femme de conviction et de combat. Vous êtes la fondatrice et la directrice de l'association Caméléon, qui depuis 1997 lance des missions humanitaires aux Philippines en faveur des enfants des rues. Des enfants des rues, et vous en êtes vite rendu compte, qui sont majoritairement des filles, des petites filles ou des jeunes filles victimes de violences sexuelles. L'objectif donc de l'association est de sortir ces filles de la rue, de leur donner un toit, une éducation, des soins, un accompagnement jusqu'à l'âge adulte. La violence sexuelle à l'égard des filles, des femmes, est une réalité dans le monde entier. On en parle souvent dans cette émission. Pourquoi avoir choisi les Philippines? C'est une histoire personnelle, une histoire d'amour avec ce pays, Laurence Ligier?
Mais non, pas du tout, au fait. Je suis partie en 1992 la première fois, donc j'avais 20 ans, en mission humanitaire. Et à l'époque, c'est parce qu'il y avait un chantier de construction là-bas. Donc j'ai pas du tout choisi le pays. J'avais jamais voyagé de ma vie, en gros. Et mon premier voyage a été 32 heures porte-à-porte. Par contre, les Philippines, l'accueil des gens, le sourire des enfants, ça m'a beaucoup touchée. Et puis j'ai tout de suite vu ce qui se passait dans la rue. Et j'ai enchaîné les missions jusqu'à ce qu'on me demande de lever des fonds en France pour essayer de faire
de
plus.
De créer une association, donc l'association Caméléon.
De créer une association parce qu'il n'existait rien. Mais avant tout, de les aider financièrement, bien sûr, à faire plus et mieux, parce qu'il y avait des réels besoins. Et ça, pour moi, c'était très important d'avoir un appel des Philippines, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai décidé un jour de créer quelque chose, et d'avoir identifié effectivement des besoins avec tous ces enfants en difficulté.
Natacha Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, essayiste, journaliste. Vous avez beaucoup écrit sur l'histoire des femmes, sur le sexisme. Et vous venez de publier Marie Curie et Bronia Dlouzska, les sœurs savantes, deux destins qui ont fait l'histoire. Marie Curie est une personnalité aujourd'hui encore qui continue de fasciner. Elle a découvert la radioactivité, la seule femme à avoir obtenu deux prix Nobel, son engagement, ses convictions humanistes. On croyait tout connaître. Mais dans ce livre, Natacha Henry, on découvre une face cachée de Marie Curie, sa sœur, sa sœur Bronia. Et sans elle, dites-vous, elle ne serait jamais devenue Marie Curie. La sororité, de manière générale, est-ce que c'est une chose dont on parle peu, Natacha Henry?
La sororité, elle est partout.
Parfois, quand on a réellement une sœur qui vous aide en cas de tempête,
parfois c'est une amie.
Il y a des sœurs qui n'aident pas.
Détestent,
mais dans le cas de Marie Curie et Bronia Luska, donc ce sont leurs noms de femmes mariées, hein, Marie et Bronia, elles se sont soutenues toute leur vie entière. Et comme Bronia était un peu plus âgée, un peu plus téméraire, c'est elle qui a été là à chaque étape de la vie de Marie Curie, dans l'ombre, avec tendresse et solidarité.
Mais on en parle tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Marie Curie, près de 80 ans après sa mort, reste la référence hein, quand on parle de femmes scientifiques. Je ne sais pas si vous, quand vous demandez autour de vous une femme scientifique, bah, c'est toujours Marie Curie. Eh bien, c'est bien, mais en même temps, c'est la preuve que les femmes chercheurs ont encore du mal à se faire connaître du grand public et elles sont aussi tout simplement sous-représentées dans les sciences. En France, seuls 26% des chercheurs sont des chercheuses. Alors, depuis 17 ans, pour changer cet état de fait, le prix L'Oréal à l'UNESCO pour les femmes et les sciences récompense 5 chercheuses d'exception dans le monde. Et cette année, une des lauréates est la physicienne marocaine Raja Cherkaoui El-Moursli, récompensée pour sa contribution majeure à l'une des plus grandes découvertes de la physique, la preuve de l'existence du boson de Higgs. Alors, j'ai pu la rencontrer alors qu'elle était à Paris pour recevoir son prix. Beaucoup plus investie dans le travail de son laboratoire et à l'université que dans les mondanités et la quête des honneurs, et bien cette femme brillante s'est prêtée avec beaucoup de gentillesse et de simplicité au jeu de l'interview. On l'écoutera donc en troisième partie d'émission. Colombe, Schneck, bonjour. Je ne vous oublie pas, vous savez, je vous aime.
Et l'héroïne cette semaine, c'est une sœur pour nous tous à France Inter. Elle s'appelle Paula Jacques. Ah, elle est productrice ici depuis longtemps. Elle vient de publier un livre.
Une grande écrivain aussi.
Oui, ouais. Qui s'appelle « Au moins, il ne pleut pas ». Et elle raconte une histoire que personne n'a osé raconter. En plus, elle est courageuse.
Une histoire personnelle, je crois. Vive les héroïnes, votre chronique Colombe Schneck, ce sera vers 15h55. J'attends vos commentaires sur le site de l'émission sur franceinter.fr dans un instant. Laurence Ligier et son action avec l'association Caméléon pour les filles des Philippines. Mais d'abord, on bouge, on danse sur France Inter.
Own it. Don't worry about it, come show me. Come on.
Mark Ronson et Bruno Mars, Uptown Funk, dans Les Femmes, toute une histoire sur France Inter. En 2002, des journalistes de France 2 suivent l'action de Laurence Ligier aux Philippines.
Du haut de ses 9 ans, Criss Angel avait accepté de nous raconter son histoire.
C'est le voisin qui nous a violés, ma petite sœur et moi.
Nous avions accompagné Laurence dans le bidonville où vivait Criss Angel. Car le but de l'association est de réintégrer les enfants dans leur famille.
Bonjour grand-mère.
Pour éviter la promiscuité, parce que c'est comme ça souvent aux Philippines qu'il arrive des choses quand les pères vivent avec leurs petites filles, on va diviser la pièce en deux et faire une chambre pour les quatre filles en fait. Il y a quatre filles et deux garçons plus le père.
7 années se sont écoulées.
Hi girls.
Bonjour Criss Angel.
Bonjour Tita Lolo.
Grâce à son parrain, Caméléon a pu financer les travaux prévus.
C'est votre chambre.
Il y a désormais 2 chambres, une pour les femmes et une pour les hommes. Et un verrou, symbole fragile de cette nouvelle intimité.
Je crois qu'ils m'ont donné une seconde vie.
Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?
Je veux apprendre à cuisiner. Un jour, j'espère avoir une famille et je veux pouvoir cuisiner pour elle.
La maison de leur agresseur qui se trouvait juste là derrière à 20 mètres est vide parce qu'on est intervenu pour qu'ils soient mis à l'écart légalement. Voilà, il n'a pas fait beaucoup de prison, il a fait 3 mois. C'est pas beaucoup quand on a violé 2 petites filles. Mais au moins, il n'a plus le droit de revenir et de vivre chez lui et de vivre à côté des filles.
Voilà ce dont Laurence est le plus fier. Avoir rendu une famille, un avenir à toutes les petites Criss Angel qu'on lui a confiées.
Donc 2 extraits de reportages diffusés dans l'émission Envoyé spécial sur France 2, donc en 2002 et 2010. C'est vous, Laurence Ligier, donc on a entendu dans ce reportage des petites filles comme Criss Angel qu'on a entendu. Vous en avez aidé beaucoup aux Philippines avec votre association Caméléon.
Depuis 17 ans, on a aidé à peu près 1000 enfants. Après, ça paraît beaucoup et pas beaucoup à la fois, puisqu'on s'engage, et ça c'est une particularité de Caméléon, sur la durée, c'est-à-dire entre 5 et 10 ans par enfant, pour les aider à se reconstruire et à préparer leur avenir. Donc c'est pas juste leur donner un toit et à manger et les envoyer à l'école, c'est beaucoup plus.
C'est un engagement sur le long terme. Oui. Donc quand on dit Philippines et violence sexuelle, on pense tout de suite tourisme sexuel, prostitution. Et là, on entend autre chose dans ce reportage. Ce sont des violences subies dans l'entourage familial.
Oui, tout à fait. Les petites et jeunes filles donc, qui ont entre 5 et 17 ans qui sont référées par les services sociaux à Caméléon sont à 70% victimes d'inceste. Le père, le grand-père, le frère, le beau-père. Caméléon vraiment s'est spécialisé dans cet accompagnement. Maintenant, sur un pays de plus de 100 millions d'habitants, avec 75% de la population qui a moins de 25 ans, où il y a donc beaucoup d'enfants, puisque pas de contrôle de natalité, effectivement, les cas sont très nombreux.
Oui, le paradoxe de ce pays, hein, donc, avec de fortes violences sexuelles, c'est aussi un pays de grande tradition catholique, où le divorce est interdit, l'avortement est interdit, l'accès à la contraception est très difficile.
Oui, tout à fait. Le poids de l'Église catholique est très important, très lourd, nous empêche de faire beaucoup d'actions, entre autres l'éducation sexuelle.
Vous avez des pressions ?
Oui, surtout là où on est en province, où les mentalités sont très conservatrices, c'est très difficile d'intervenir. On le fait quand même, mais à chaque fois, je suis convoquée parfois par les services sociaux où on entend des rumeurs, des diffamations sur les choses qu'on peut faire avec les enfants, entre autres dire que si on leur donne un moyen de contraception, c'est pour les prostituées, vous voyez, ce genre de faire de l'argent sur leur dos. Bon, ça, maintenant ça va mieux, mais il y a eu des années où ça a été pénible.
Comment fonctionne l'association justement ? Quel est l'objectif précisément et comment vous travaillez ?
Alors moi, j'ai créé l'association en 97 aux Philippines pour répondre à un appel. Mon but, c'était de tout mettre en place et de laisser le bébé entre les mains des Philippins dans un souci de pérennité et aussi parce qu'il y avait des compétences locales. Donc c'est le cas actuellement. Il y a 35 salariés philippins qui encadrent plus de 410 enfants chaque année. On aide les enfants qui sont référés par les services sociaux à se reconstruire, préparer leur avenir, à se réinsérer dans la société. Mais comme on ne peut pas sauver tout le monde, on fait aussi beaucoup d'actions de prévention dans les villages, dans les écoles, avec des jeunes qui sont eux-mêmes ambassadeurs des droits de l'enfant pour faire connaître ce sujet qui reste tabou. Mais c'est que comme ça qu'on peut peut-être faire changer la mentalité des plus jeunes pour pas que ça se reproduise.
Donc les petites filles sont retirées de leur famille par les services sociaux et vous sont confiées.
Oui, alors suite aux abus sexuels souvent répétés, hein, parce que les cas d'inceste, bon, c'est un an jusqu'à 5 ans, avec parfois de plusieurs violeurs, des jeunes filles qui tombent enceintes de leur père, de leur grand-père, vous voyez, des cas difficiles. Donc les services sociaux les placent chez nous, puisqu'on est accrédité pour ça, dans nos maisons d'accueil pendant en moyenne 4 ans, où là elles reçoivent une aide médicale, psychologique, voire psychiatrique, juridique, puisqu'on est en procès contre leurs agresseurs, scolaires.
Ça, c'est important.
C'est très important pour leur reconstruction
juridique.
Oui. Oui. C'est très long, puisque la justice est corrompue aux Philippines, parce qu'il n'y a pas assez de juges, parce qu'il y a des pressions, des menaces de mort sur les enfants.
Ce combat que vous menez avec l'association Caméléon aux Philippines est parfois un combat difficile et dangereux. Je crois que vous avez même été agressée physiquement.
Oui, oui, on est souvent menacés. Je l'ai été personnellement et agressée chez moi le soir, coup de couteau. Heureusement, je me suis défendue parce qu'à l'époque, je faisais du taekwondo. Mais les filles sont aussi menacées pour qu'elles retirent leurs plaintes. Donc, il y a des tueurs à gages qui sont payés par les familles, souvent, pour les impressionner, leur faire peur et arriver à leur fin.
Et comment ces jeunes filles réussissent-elles justement à s'en sortir ?
Avec un soutien moral, avant tout, de l'association, mais aussi de leurs parrains. Elles sont toutes parrainées individuellement, par des parrains de partout dans le monde, qui financent leur scolarité, mais qui les soutiennent, parce que comme elles sont détachées de leur famille, pas par choix, bien sûr, hein, par rapport à ce qui s'est passé, elles ont besoin de cette confiance, de cet amour, de ce lien affectif. Donc, grâce à ça, elles arrivent à aller au bout de leurs études, et puis on essaie effectivement de les placer dans des hôtels. Il y en a certaines qui sont institutrices maintenant, il y en a qui sont sages-femmes, il y en a qui arrivent au bout de leur parcours parce que l'association a 17 ans. Donc on voit les premières filles qui terminent et pour nous c'est une grande fierté qu'elles soient indépendantes mais aussi financièrement également.
Et vous travaillez aussi avec le cirque. Pouvez-vous nous expliquer cette histoire étonnante ?
Oui, ça fait 10 ans qu'on fait du cirque. C'est un cirque qui m'avait vu d'ailleurs envoyé spécial, le cirque Zanzibar, qui m'avait contacté pour me parler de la thérapie par les arts du cirque. Alors, je ne connaissais pas. Aux Philippines, le cirque n'est pas connu. Donc, je leur ai demandé de venir. Et puis, en gros, ils ne sont jamais repartis. Eux, comme d'autres circassiens, actuellement avec l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois. Et en fait, chaque année, il y a des missions qui se passent aux Philippines avec des circassiens qui viennent donner des cours. Et les filles, à travers ce sport, on va dire, le cirque, c'est à la fois un sport et un art créatif.
Du spectacle.
Oui. S'épanouissent, trouvent leur place sur scène. Certaines deviennent formatrices, encadrent des groupes. Et on arrive maintenant même, parce qu'elles ont un bon niveau, à faire des spectacles qui nous permettent de rassembler le plus grand nombre et donc de leur parler aussi, avant le spectacle, des droits de l'enfant et de les sensibiliser.
Qu'est-ce que ça apporte à ces jeunes filles ? C'est une confiance en soi ?
Oui, le fait de se mettre en scène, alors parfois seules, par exemple quand elles font du trapèze, du tissu aérien, elles sont seules, ou en groupe quand elles font des acrobaties, du monocycle, faire confiance en l'autre, se faire confiance, qui est quand même une prise de risque, assumer son passé, donc se mettre en scène pour que les gens les regardent pour leur talent et pas pour ce qui s'est passé. Les filles qui ont des problèmes psychiatriques, par exemple, elles aiment bien faire clown, derrière peut-être un maquillage, un masque, faire rire les autres. Celles qui sont plus introverties, elles vont faire du jonglage parce qu'il faut beaucoup de concentration, répéter pendant des heures. Celles qui sont un peu plus costauds, elles vont faire des portées ou s'occuper de la logistique ou du son. Alors elles trouvent toutes leur place et elles sont une 60aine à faire du cirque chaque week-end et une 20aine sur scène à faire des spectacles.
Oui, c'est une maîtrise du corps aussi. Hein.
Du corps et de l'esprit, oui, le cirque, c'est très complet à ce niveau-là.
Et vous-même, Laurence Ligier, vous avez vécu longtemps aux Philippines et aujourd'hui, vous êtes plutôt à Paris pour collecter des fonds, c'est
voilà.
Ça ?
Pour tout mettre en place, j'ai dû passer 11 ans sur le terrain pour construire les maisons d'accueil, former le personnel, encadrer les enfants. Et maintenant, je suis entre la France et on va dire l'Europe, parce que Caméléon a des antennes en Suisse, au Luxembourg, et des partenaires un peu partout. Et les Philippines, parce qu'avant tout, les enfants, c'est mon moteur, pour effectivement trouver des parrains. Ça, c'est très important. La rentrée scolaire, c'est au mois de juin, donc on a besoin de parrains, une centaine de parrains cette année. Trouver des financements, parce que Caméléon, qui vient en aide à plus de 2600 bénéficiaires, enfants et familles, ça coûte presque 1 million d'euros. Donc il faut trouver ça auprès des entreprises, du grand public, des particuliers, des événements qu'on organise.
Donc vous, vous vous battez sur ce front-là.
Ouais, voilà, bon, c'est moins. Je préfère être avec les enfants, à tout vous dire. Mais je crois qu'on a plus besoin de moi maintenant ici pour en parler, sensibiliser le plus grand nombre, former des volontaires qui partent sur le terrain, des bénévoles.
Est-ce que la cause des femmes intéresse le public ? Est-ce que les gens sont prêts à donner de l'argent ? C'est difficile ?
Ben, les gens sont très sollicités, donc c'est toujours difficile, surtout pour un pays aussi lointain que les Philippines, que tout le monde ne connaît pas, sur une problématique très triste, mais certaines personnes sont plus sensibilisées à des choses qui vivent ici, par exemple les enfants malades, le cancer, donc c'est parfois difficile. Après, à travers les mots des filles, les vidéos, les gens qui viennent sur le terrain, ça évidemment oui, mais je ne fais pas venir les enfants ici, même si c'est elles le meilleur porte-parole du programme de l'association.
Merci beaucoup, Laurence Ligier. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur l'association Caméléon, si vous souhaitez bien sûr apporter votre soutien, le lien est disponible sur le site de l'émission sur franceinter.fr.